RFE, recevez un message avec le pasteur Josette.
Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc c'est pasteur Josette qui vous parle. Et le titre de mon message, c'est « Dieu entend ». Je voudrais rappeler à chacun d'entre nous que Dieu entend son cœur, que Dieu entend sa prière, que Dieu est vivant. Il n'est pas aveugle et il n'est pas sourd non plus. Si toutefois, bien sûr, nous le prions, lui, et non pas une représentation ou une image quelconque de lui, mais si nous le prions en esprit et en vérité. Jésus a dit que nous devons prier le Père en esprit et en vérité. Et dans le livre d'Exode, au chapitre 20, du verset 2 à 5, Dieu a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. La Bible dit que nous devons aimer Dieu et que nous devons aimer notre prochain. Et si la Bible dit que nous devons aimer Dieu, cela veut dire que nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité, non pas une image, non pas une statue. Vous savez, même une statue de Jésus sur la croix, la Bible dit que Jésus est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, il n'est plus sur la croix. Il est au ciel et il intercède pour chacun d'entre nous. Vous savez, lorsque nous faisons cela, lorsque nous prions des saints, lorsque nous prions des statues en pensant que ce sont elles qui vont amener la bénédiction dans nos vies, eh bien, comme dit la parole, nous ouvrons la porte à la malédiction. Parce qu'il est dit que « Je suis un Dieu jaloux, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la faute des jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Et les commandements de Dieu sont « Tu n'adoreras pas d'idoles, tu n'adoreras pas des images, tu n'adoreras pas les statues, mais tu adoreras Dieu en esprit et en vérité. » N'est-ce pas ? Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes est son Fils Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 2,5, il est dit, dans 1 Timothée 2,5, « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. » Donc, bien-aimés, nous devons réaliser que lorsque nous prions un saint, lorsque nous prions une statue, nous adorons un faux Dieu. Parce que la Bible dit que la seule personne qui peut être intermédiaire entre nous et notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Alors, je voudrais parler à mes bien-aimés frères et sœurs catholiques cet après-midi, aujourd'hui. Je sais que vous priez Marie et je n'ai rien contre Marie. Nous respectons Marie, elle est la mère de Christ. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert lorsque Jésus est mort à la croix. Elle était là, elle était à ses pieds et elle a beaucoup souffert de voir son enfant être maltraité comme cela. Et vous savez, c'est pas facile pour une maman. Mais Marie était une femme comme nous. Elle a été une femme choisie. Dieu lui a fait une grâce et il lui a donné un fils. Et aujourd'hui, Marie est auprès du Seigneur. Elle attend la résurrection comme chacun d'entre nous. Jésus-Christ, il est vivant, lui. C'est pourquoi nous pouvons le prier, parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité. Marie, par contre, n'est pas ressuscitée. La Bible dit qu'elle, elle est avec le Seigneur. Elle attend la résurrection des justes, n'est-ce pas ? C'est pourquoi lorsque nous prions Marie, lorsque nous prions une statue de Marie ou la statue d'un saint ou d'une sainte, eh bien Dieu ne peut pas se réjouir, parce que Dieu nous dit que le seul intermédiaire entre lui et les hommes, c'est Christ. C'est Christ qui doit vraiment prendre la place dans notre cœur. Bien sûr, mes amis, vous avez peut-être été élevés dans cette forme de prière, mais je vous invite fermement à lire les Écritures. Je ne vous condamne pas, je ne vous juge pas. Je sais que beaucoup d'entre vous vous aimez le Seigneur, mais vous devez prendre ce que la parole de Dieu dit au sérieux et obéir à la parole de Dieu. Parce que sans le savoir, lorsque vous priez les statues, lorsque vous priez ces choses, eh bien, vous faites de Dieu une idole. Et Dieu ne veut pas de cela. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez, je connais un jeune couple qui a un petit garçon handicapé et ce petit garçon-là, maintenant, il devait vivre, les docteurs avaient dit, jusqu'à l'âge de 2 ans. Et maintenant, ce petit garçon-là, il a 4 ans, par la grâce de Dieu, il est toujours vivant. Donc, bon, j'ai eu la grâce et la joie de bénir ma sœur, donc la maman du petit garçon. Je l'ai baptisée, elle a accepté Jésus dans son cœur. Je la visite de temps en temps quand ça m'est possible. Et donc, en discutant avec elle, elle m'a raconté que son mari, donc, quand il était petit, il avait eu un accident et qu'il avait failli mourir, et que la maman de son mari, si vous voulez, elle avait prié une sainte dont je tairai le nom, et son mari avait été guéri. Et voyez-vous, aujourd'hui, l'enfant de ce couple est handicapé. Moi, je crois fermement que cela est une malédiction, parce que quelque part, si vous voulez, elle avait prié, si vous voulez, un Dieu qui n'était pas Dieu. Alors, c'est vrai, le diable, vous savez, il est fort, il arrive à nous donner des choses, mais quelque part aussi, il vient pour voler et égorger et détruire. Et donc, la maman de cet homme, elle a pas simplement prié cette sainte, elle va visiter les marabouts, elle va visiter les médiums, etc., etc. Et là, bien sûr, nous savons tous que ces choses sont interdites par Dieu. Et je crois vraiment dans mon cœur que lorsque nous prions pour le petit garçon, eh bien, le fait que cette maman, si vous voulez, travaille dans ce sens avec les sorciers, etc., ça empêche vraiment la guérison du petit garçon. Voyez-vous, je le crois vraiment dans mon cœur. C'est pour ça que vous qui écoutez ce message, et peut-être vous avez des problèmes dans votre vie, eh bien, mettez-vous devant Dieu et dites-lui, Seigneur, montre-moi là où j'ai agi contre ta volonté, contre ta parole. Je te demande pardon, Seigneur, je ne savais pas que je ne devais pas le faire. Vous savez, moi qui vous parle, personnellement, avant de connaître Jésus, j'ai été priée sur la tombe d'un monsieur qui s'appelle Alain Kardec, c'était un médium. On mettait la main sur son épaule et on faisait un vœu, mais je ne savais pas que cela n'était pas de Dieu. J'ai prié aussi des statues, comme chacun d'entre nous. J'ai prié des médailles, etc. Mais je ne savais pas, et Dieu m'a fait grâce parce que j'avais vraiment un cœur assoiffé. Je voulais le connaître et il m'a vraiment révélé son amour. Il m'a vraiment révélé la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle. J'espère que je ne vais pas blesser votre cœur. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon désir. Le seul désir de mon cœur aujourd'hui, c'est de vous aider et de vous dire oui, Dieu vous entend. Dieu entend la prière de votre cœur. Dieu entend vos larmes. Dieu entend vos cris. Qui que vous soyez, si vous vous adressez à Dieu dans le nom de Jésus-Christ, il va répondre à vos prières parce que Dieu entend. Amen. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit, parfois on reçoit des réponses quand on prie les saints, mais là c'est une porte ouverte à la malédiction, comme a dit la parole, je maudirai les enfants et leurs enfants, etc., etc. Et on n'est pas conscient de cela, bien-aimé, on n'est pas conscient de cela. Oui, souvent, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui paient les pots cassés de nos erreurs. Alors évidemment, si nous nous repentons, Dieu nous libère et Dieu enlève la malédiction qui est sur nos familles, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous avons des malédictions ancestrales et que nous les confessons, que nous confessons avoir fait des choses qui n'étaient pas de Dieu, automatiquement le Seigneur nous libère par son sang. Et nous allons voir au travers des Écritures donc que Dieu entend ceux qui le prient et qui les exaucent. Dans le livre de Genèse 16, 1 à 6, on va le lire ensemble. Moi j'aime bien cette image de l'amour de Dieu pour l'homme. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Saraï maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange lui dit, « Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » Amen. Donc, nous voyons que Agar, si vous voulez, c'était une égyptienne, c'est-à-dire une femme qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Si vous voulez, est venu à son secours. Elle était assise dans le désert. Elle s'était sauvée. Et certainement que là, dans le désert, elle n'avait personne pour l'aider. Elle n'avait personne pour l'encourager. Elle s'est assise donc auprès d'un puits. Et là, nous voyons que le Seigneur est venu lui parler et la secourir. Et il lui a dit, mais ça, Agar, retourne chez Saraï et je ferai de toi, enfin de ton fils, une grande nation, etc., etc. Et donc, un peu plus loin, dans Genèse 16, 15, Agar donna un fils à Abraham et celui-ci l'appela Ismaël. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Israël. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Donc nous voyons que quelques années plus tard, 13 ans exactement, alors que notre ami Agar avait mis au monde Ismaël, Dieu va visiter de nouveau Abraham et il va lui dire « Voilà, ta femme Saraï aura un fils. Dorénavant, elle ne s'appellera plus Saraï, elle s'appellera Sarah, c'est-à-dire princesse, et toi tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, père d'une multitude. » Alléluia. Et nous voyons que cette chose va s'accomplir. Comme le Seigneur avait dit, la chose va s'accomplir. Sarah, donc, aura un fils avec son mari, alors qu'ils sont âgés tous les deux. Et dans Genèse 21, 1 et 2, donc, bah, vous le lirez, donc c'est là, c'est la naissance de Isaac, n'est-ce pas? De 8 à 12, le verset 8 à 12, il est toujours parlé de Isaac. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit le rire du fils de l'égyptienne Agar qu'elle avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise à cause de l'enfant et de ton esclave, quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Donc vous voyez là, eh bien, le Seigneur permet donc que Sarah fasse chasser donc cette pauvre Agar dans le désert avec son fils. La Bible dit que Abraham va lui donner un peu d'eau et un peu de pain et il va la chasser. Et évidemment, cette pauvre Agar, qui est bien sûr une femme égyptienne qui ne connaît pas Dieu, elle est vraiment désespérée parce que elle sait très bien que là, dans le désert, avec son enfant, elle va mourir si personne ne vient à son secours. Genèse 21, 14 à 18, donc là il est parlé d'Abraham. Il se lève de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi son enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. » Amen. Donc la Bible dit que Dieu avait entendu les cris de l'enfant. Je pense que Agar, elle a certainement cherché pour trouver de l'eau. Elle voulait que son enfant puisse vivre. Elle voulait lui donner à boire. Mais après certainement avoir tourné dans le désert et voyant qu'elle ne trouve pas d'eau, elle va s'asseoir et elle va commencer à pleurer tout haut. Ça, bien aimé, c'est une prière qu'elle fait monter vers le Seigneur. Quelque part, elle dit, voilà, si toi, Seigneur, tu ne viens pas à mon secours, mon enfant va mourir. Je suppose qu'elle a pleuré et en même temps, son cœur, il a crié vers Dieu. Elle a dû se rappeler que Dieu lui avait fait une promesse, que Dieu lui avait dit que ton enfant sera père d'une multitude, etc. N'oublions pas qu'elle avait déjà eu affaire avec le Seigneur une première fois lorsqu'elle s'était enfuie, notre Agar. Donc c'est vrai, c'était une Égyptienne, mais malgré cela, elle savait que Dieu existait. Le résultat, c'est que Dieu va entendre l'enfant qui pleurait parce qu'il avait soif. Et voilà, aujourd'hui, je voudrais encourager particulièrement les mamans. Savez-vous que nos enfants aussi ont soif? C'est pourquoi ils cherchent à boire. Ils cherchent quelque chose ou quelqu'un qui va les rendre heureux. Alors, les uns vont chercher à boire dans la bouteille d'alcool. Les autres vont chercher à boire dans le sexe, dans les sectes. Les autres dans l'argent, les autres dans la drogue. Voyez-vous, le diable, il a tellement de sources à proposer à l'être humain. Et l'homme cherche, parce que l'homme a soif. Et il ne sait pas qu'il a soif. Et il pleure. Vous savez, on ne voit peut-être pas les larmes couler du cœur, des yeux de nos enfants. Mais sachez-le, ils pleurent à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'ils courent à droite et à gauche. Ils cherchent quelque chose. Comme la femme samaritaine qui était montée dans le livre de Jean, qui allait chercher de l'eau. Et lorsque Jésus l'a rencontrée, il lui a dit « Celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif ». Voyez-vous, quelque part, la femme samaritaine, elle était dans la souffrance aussi parce qu'elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Je suppose qu'elle était rejetée de tous. Et c'est pourquoi elle allait chercher de l'eau à une heure où il n'y avait personne. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle a dit « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Et bien aimé, nous devons réaliser que si Agar a pleuré, elle a prié aussi. Et pourtant, cette femme, elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais ses pleurs, mais ses cris, mais ses soupirs ont eu vraiment un accès auprès du cœur de Dieu. Elles ont ouvert les yeux de Dieu et il a entendu son enfant qui pleurait et qui avait soif. Femme, aujourd'hui, je te parle. Crois-tu que le Dieu qui a répondu à Agar, c'est ton Dieu? N'arrête pas de crier à lui parce qu'il entend le cœur de ton enfant. Peut-être toi, tu ne le sais pas que ton enfant, il pleure. Tu ne sais pas peut-être que ton enfant, il a soif de quelque chose. C'est pour ça qu'il cherche dans le monde, auprès des fontaines, quelque chose qui va le rafraîchir. Et tu dis, ah, il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais sache-le, c'est parce qu'il cherche quelque chose, parce qu'il a faim et soif à l'intérieur de lui. Et si tu cries à Dieu, eh bien Dieu va venir au secours de ton enfant parce qu'il entendra la voix de son cœur, il entendra les cris de son cœur. Dieu a entendu Agar lorsqu'elle a cessé de s'agiter, lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus rien faire pour son fils. Et toi, ma sœur, mon frère, Dieu va commencer à agir lorsque tu auras capitulé, lorsque tu auras dit, ben Seigneur, de toute façon, je ne peux rien faire. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai essayé d'apporter à boire à mon fils, à ma fille, à boire de l'évangile, à boire de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas pris cette eau, ils n'en ont pas voulu. Alors, tu as essayé toutes sortes de choses pour que ton enfant vienne à Dieu et il n'a pas trouvé. Eh bien, arrête, assieds-toi, abandonne Moïse, bébé Moïse, mets-le dans le panier de la foi, dans la rivière du Saint-Esprit. Seigneur, maintenant, je t'abandonne mon enfant et je crois, Seigneur, que tu viens, que tu entends les cris de son cœur et que tu lui donnes cette eau vive que tu veux donner à chacun d'entre nous. Sois tranquille, mon frère, ma sœur, Dieu va entendre la voix de bébé Moïse, comme il a entendu la voix d'Ismaël. Oui, Dieu va entendre la voix de bébé Moïse. Vous savez, il fallait du courage à Jochébed pour mettre son enfant dans un panier. Certainement qu'il y avait des crocodiles, je sais pas, dans le lac là, où elle a mis son enfant. Peut-être que le panier pouvait se retourner et l'enfant aurait pu se noyer. Ou alors les Égyptiens auraient pu trouver le panier et tuer son enfant. Mais elle a eu du courage, elle a abandonné ce bébé dans les mains de Dieu. Elle l'a mis dans le flot de Dieu, sur le chemin de Dieu. Et là, Dieu a envoyé du secours et il a sauvé bébé Moïse. N'essaie pas de régler la situation, n'essaie pas de faire les choses à ta manière. Laisse Dieu faire parce que Dieu sait comment il peut toucher ton enfant. Nous, on essaie toujours de les toucher à notre manière. On veut toujours les convertir. On veut toujours les attirer. On veut toujours, parfois, les contrôler. Mais arrête! Abandonne bébé Moïse. Abandonne Ismaël. Et fais comme Agar. Crie vers ton Dieu. Alors peut-être tu n'as pas d'enfant, mais ma sœur, mon frère, je te dis, prie aujourd'hui et crie à ton Dieu pour tous les enfants du monde. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui souffrent, qui sont dans la solitude, qui sont dans la souffrance? Voyez ceux qui sont vendus comme esclaves sexuels, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui n'ont plus de parents. Bien-aimé, je t'invite à être une Agar. N'arrête pas de pleurer pour ces enfants que tu ne connais pas, mais que Dieu va entendre à cause de tes larmes, à cause de tes prières. Dans Exode 2, 23 à 25, nous voyons encore là une situation où Dieu nous montre que vraiment, il entend la voix de ceux qui s'avancent près de lui. Alors, Exode 2, 23 à 25. Longtemps, donc, c'est après que, que le peuple a été en Égypte, et voilà que longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris, leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu, et Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. Amen. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu entendit leurs gémissements. Dieu entendit leurs cris de souffrance. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas d'épée. Mais il a entendu leurs soupirs. Il a entendu leurs larmes. Ils étaient esclaves, ils étaient dans la servitude. Et pourtant, ce peuple avait reçu des promesses de la part de Dieu. Mais malgré cela, Satan avait mis les mains sur eux. Et voyez-vous, ils n'étaient pas décidés à les laisser partir. Et bien souvent, nous aussi les chrétiens, nous qui sommes fils et filles de la promesse, nous sommes dans la servitude. Parfois dans nos corps, il y a la maladie, il y a la souffrance. Parfois dans nos finances. On ne peut pas dire que vraiment on est heureux quand on ne peut pas manger, quand on ne peut pas payer son loyer, quand on ne peut pas payer sa lumière. Bon, en France, je sais que on est quand même des gens bénis parce qu'on a à manger, à boire, etc. Mais il y a des pays, bien aimés, où les gens n'ont même pas un quignon de pain à manger, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que on n'est pas dans la servitude lorsque dans notre foyer, nous avons des conflits avec nos maris, avec nos enfants. Et nous avons vraiment l'impression que jamais nous n'allons nous en sortir. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu entend, mon frère, ma sœur. Dieu entend tes cris. Dieu entend tes larmes. Dieu entend tes prières. Dieu entend tes soupirs. Dieu entend tes gémissements. Et il vient. Il vient à ton secours. Car ce que Dieu a promis, il l'accomplit toujours. Ne sois pas comme le peuple hébreu. Car il est dit dans Exode 6, 7 à 9 qu'à cause de l'impatience et de la souffrance, les Hébreux ne croyaient pas ce que Moïse leur disait. N'est-ce pas souvent notre cas? Lorsque nous passons par une difficulté, nous perdons alors espoir et nous murmurons contre Dieu. Genèse 29, 14 à 25. On va le lire, je pense que c'est quelque chose d'important de réaliser. Donc, Genèse 29, 14 à 25, dont il est parlé de Jacob, qui va chez son oncle Laban. Et Laban lui dit, oui, c'est certain, tu es bien fait du même os et de la même chair que moi. Jacob, donc, habite chez Laban. Puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel serait ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban lui dit, « Mais je préfère la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel, et ils lui parurent comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à lui. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa, Jacob dit à Laban. « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban lui dit « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Et c'est ce que Jacob fit. Il termina la semaine avec Léa, puis l'abandonna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel qui préférait même à Léa et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Quand je lis cela, je dis « Mais voyez-vous, Léa, elle était en souffrance. La Bible dit qu'elle n'était pas aimée. Léa n'était pas aimée non seulement de son père, parce qu'il l'a vendue comme une marchandise. Il n'avait aucune pitié pour elle. Il savait que Jacob était amoureux de Rachel, mais peu importe, du moment que Jacob travaille pour lui, on va lui donner Léa en attendant. Léa n'était pas aimée de son mari, de Jacob. Léa n'était pas aimée de sa sœur non plus. Sa sœur la détestait parce qu'elle avait des enfants, Léa, et elle, Rachel, n'en avait pas. Et nous voyons que le Seigneur a exaucé Léa. Léa a raconté sa misère à Dieu. Et là, je voudrais lire Genèse 29, 31 à 34. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il lui permit d'avoir des enfants tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera ». Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Amen. Donc vous voyez, la Bible dit que Léa a prié le Seigneur, que Dieu a entendu sa prière et Dieu lui a donné des enfants, alors que sa sœur Rachel était stérile. Exode 22, 20 à 23. « Tu ne maltraiteras pas l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étranger en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Donc, je voudrais dire dans ce passage, que Dieu, mes amis, entend la voix de la veuve et de l'orphelin. Dieu aime la veuve et l'orphelin. C'est pour ça, dans le livre de Jacques 1, 27, il est dit que l'amour est une action. Amen. Voilà ce que dit l'apôtre Jacques concernant la vraie religion. Il dit « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur parce que la religion pure est sans tache devant Dieu. Notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Donc, au travers des Écritures, Dieu nous dit que nous devons prendre soin des orphelins et des veuves. Parce que lorsqu'elles crient à lui, eh bien le Seigneur les entend. Amen. Le Seigneur les entend. Et il veut que nous aussi, nous les entendions. Nous voyons dans le livre de Jonas encore un passage qui nous dit que Dieu entend. Lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, eh bien il n'avait plus aucune issue. Ce n'est que lorsqu'il a crié vers Dieu que Dieu est venu à son secours. Pourtant, nous savons tous que Jonas était dans les problèmes à cause de sa désobéissance. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Si nous nous repentons, si nous crions à lui de tout notre cœur, il va nous sortir du trou où nous sommes tombés. Dans Genèse 30, 6, nous voyons un autre exemple. Rachel, qui était stérile, a prié elle aussi. Et le résultat, c'est que Dieu a entendu sa voix et il l'a exaucée. Car dès que Dieu entend, il agit. Amen. Psaume 6, 9, il entend même la voix de mes larmes. Tu pleures peut-être silencieusement, mais Dieu entend ton cœur. Dieu entend tes larmes. Psaume 6, 10, oui, Dieu entend. Et s'il est vrai que Dieu entend, eh bien Dieu t'a parlé aujourd'hui. Vous savez, Dieu veut nous faire du bien, mes amis. Dieu veut vraiment que nous lui fassions confiance. Alors peut-être que vous, aujourd'hui, vous écoutez ce message et vous êtes là, vous priez votre Seigneur pour un sujet, pour une situation quelconque. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, Dieu vous a parlé et qu'il vous demande de lui faire confiance. Et dites-vous bien une chose, c'est que vos prières ne sont pas tombées à terre, mais elles sont montées vers lui.